À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour à tous, merci de nous écouter sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans cette émission au cœur de l'université. Je me présente rapidement, je suis Mato Sonoumou, étudiant guinéen. Je suis actuellement les cours en France à l'université Sorbonne Paris Nord. Donc c'est une joie de parler de ce sujet. Dans un premier temps de cette émission, il y aura l'éditorial présenté par Mamadou Keita. Et puis vous aurez la revue de la presse avec Boubacar. Ensuite, place au débat qui sera au cœur de cette émission. Au programme aussi, l'interview d'une étudiante qui est passée d'une université privée au public. Et en clôture avec la chronique culture.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Une fois de plus, bienvenue dans cette émission sans entendre, place à l'édito. Bonjour Mamadou.
Bonjour
Mamadou. Je vous laisse Vous nous parlez aujourd'hui de l'importance de l'université publique.
C'est ça. Dans un monde où l'accès à l'éducation est souvent perçu comme une marchandisation de la connaissance, l'université publique gratuite demeure un pilier fondamental pour garantir l'égalité des chances. Cette gratuité n'est pas seulement une question de coût, mais un principe essentiel pour la démocratisation de l'éducation et l'accès à des parcours d'excellence pour tous, indépendamment de l'origine sociale ou des ressources financières. L'accès à l'université, un droit, pas un privilège. L'université publique gratuite représente un rempart contre la reproduction des inégalités sociales. Sans ce modèle, l'éducation supérieure serait réservée à une élite, tandis que les jeunes issus de milieux modestes seraient contraints de se détourner des études supérieures ou de s'endetter pour y accéder. Dans ce cadre, la gratuité devient une question d'équité. Offrir à chaque citoyen la possibilité d'acquérir un savoir approfondi sans discrimination financière permet à chacun d'aspirer à une meilleure situation personnelle, professionnelle et sociale. L'université publique a toujours été perçue comme un lieu où l'accès au savoir doit être ouvert à tous, indépendamment de la situation financière des étudiants. La gratuité de l'enseignement supérieur dans les universités publiques représente un principe fondamental qui permet à chaque individu, quelle que soit son origine sociale, de poursuivre ses études et d'atteindre son potentiel. Nous pouvons aussi parler du système français, qui est un système audacieux et qui doit être préservé, car il est nécessaire pour obtenir un ascenseur social qui est un fondement de notre société. Pour terminer, j'aimerais nous parler de mon expérience personnelle à moi, car en fin d'année de terminale, je voulais faire des études de journalisme. Et j'ai fait de nombreuses portes ouvertes au sein de plusieurs écoles de journalisme, mais je me suis rendu compte que le prix de l'enseignement était trop élevé pour les exigences financières de mes parents. Je me suis donc rabattu vers l'université publique. Et à travers ce choix, j'ai vu les nombreux bienfaits de l'université publique qui m'ont permis d'avoir un esprit critique et de le développer, pardon. Et j'ai pu me professionnaliser au sein de l'atelier radio 13e Monde, car j'ai commencé en L2 et là c'est ma deuxième année. Et pour l'instant, c'est une superbe expérience.
Voilà, vous avez bien compris l'éditorial des Mamadou sur l'université publique. Merci beaucoup Mamadou. Et maintenant, nous allons recevoir Boubacar qui va faire la revue de la presse sur le financement de l'enseignement supérieur. Boubacar, bonjour.
Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Dans la presse de tome, on s'intéresse au financement de l'enseignement supérieur de la France. Un article paru le 7 octobre dernier dans Le Figaro, intitulé, je cite, « Sciences Po, Valérie Pécresse conditionne le rétablissement des subventions à une charte républicaine » et signé par Paul Sugy, mentionne que la présidente de la région Île-de-France avait suspendu depuis avril dernier la subvention de l'Île-de-France à Sciences Po Paris suite à des manifestations pro-palestiniennes jugées trop antisémites. Je rappelle qu'il y a une trentaine d'établissements qui bénéficient de cette subvention d'environ 70 000 euros. Par ailleurs, la présidente ouvre la voie à une reprise des versements, mais sous condition, elle exige notamment de tous les établissements d'enseignement supérieur financés par la région de s'engager à respecter les principes républicains et la laïcité. Pour ce faire, elle a mis en place une commission de conduite par Nelly Garnier, déléguée à l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de rédiger une charte républicaine dans laquelle on stipule en préambule, je cite, les établissements signataires, fidèles à leur mission historique de transmission des savoirs, s'engagent à faire respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, et également de dignité de la personne humaine, qui s'attachent aux valeurs universelles de la France, aussi bien auprès de leurs étudiants que de leur personnel. Fin de citation. Elle déclare également que tout manquement à la charte conduirait à la suppression de toute participation financière de la région. Pour précision, le texte a été soumis au vote de la commission permanente de la région le 15 novembre dernier. Cette prise de position a de quoi faire réfléchir à l'interprétation de la notion de laïcité. Toujours en lien avec le monde de la recherche, le journal Le Monde, dans une chronique intitulée « Soulagement et frustration des chercheurs », écrit par Philippe Asgenazi, on note une mobilisation massive des présidents d'universités et d'organismes de recherche contre le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche jugé insuffisant. Je souligne que le projet de loi de finances 2025 présenté le 10 octobre dernier prévoit une dotation de 26,8 milliards d'euros pour l'enseignement supérieur et de la recherche, suite à une hausse, soit une hausse de 89 millions d'euros par rapport à l'année dernière, qui ne couvrira toujours pas les dépenses supplémentaires. En effet, se pose la question de l'amélioration du régime indemnitaire du personnel enseignant et chercheur, mais aussi la croissance des âges moyens de recrutement des maîtres de conférences ainsi que des chargés de recherche. Dorénavant, ce n'est pas avant 35 ans qu'on est recruté dans ces postes.
Alors, vous avez compris, c'était bien sûr la revue de la presse avec Boubacar. Et maintenant, pause musicale.
Excalibur de son enclume en 6,45, je suis le pitch, je m'avec une plume. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, choco BN, salle noire, ma génération. Enfant seul, sans problème, sauf à la maison. J'ai pris la vie par derrière sans me poser de questions. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. M'a dit, tu as la rage, dégage, je te pique, femelle en chaleur, c'est pas dans les pages, je te nique. J'ai grandi, suis mort en silence, crucifié sur une caravelle, sous l'œil éternel d'une étoile filante. Dans ce Capharnaüm, derniers seront les vainqueurs. Mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. La vie d'un homme, la mort d'un enfant. Du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi je veux de l'oseille. Pour en obtenir, des fois c'est les cartons. Peu importe si la daronne veut faire le tour du monde. Petit la race humaine est méchante. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens là que entre les jambes. Et j'ai toujours la larme à l'œil, le cœur engourdi. Dealer, tu noir et blanc, 100% boule. Dis killer, talentueux mais tu seras jamais dans ma poule. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Des fois je me dope comme un coureur cycliste. Quand ça réveille mes cicatrices, je me sens si seul et si triste. Lyriciste agréé, pour ça que Dieu m'a créé. Si si, ambiance pendue, ambiance Mississippi. Je me déchaîne au microphone, c'est l'Amazonie. Des indigènes dans les chromosomes, les cités d'or, ma terre promise. À lever tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. J'en suis où j'en suis malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Pas à pas de pied ferme sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. Devant les profs, je faisais des grimaces en tirant sur mon linge. Car on m'a dit en classe que l'homme venait du singe. B2O, BA, la vie.
C'était Pitbull de Booba sur son album Westside, sorti en 2006. Et maintenant, je laisse la place à Youssef qui animera le débat sur l'enseignement supérieur avec ses trois invités. Bonjour Youssef.
Bonjour Matos, merci de cette présentation. Et je suis ravi d'animer ce débat qui aura pour invité Christian, représentant du syndicat étudiant de l'UNEF. Bonjour, bonjour Christian.
Bonjour Youssef.
De Aïna, membre actif et engagé réputé de l'association La Jeunesse Éclairée. Bonjour Aïna.
Bonjour Youssef.
Et enfin de Dany, spécialiste en finance pour la revue de presse économique des Échos Le Parisien.
Bonjour, c'est un plaisir.
Je suis ici maintenant avec mes invités pour présenter ainsi le débat qui aura pour sujet « L'enseignement public permet-il l'ascension sociale ?» L'ascension sociale. Et c'est en vous posant la première question, Dany. Vous qui êtes économiste, que pensez-vous de l'état budgétaire des universités publiques ?
Eh bien, je vais commencer par donner des chiffres, car c'est souvent le plus parlant. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, on constate qu'en 2022, il y avait 40 milliards d'euros investis dans les universités, dans l'enseignement supérieur, et en 2023, 25 milliards. Donc, je n'ai pas besoin de faire le calcul pour que vous puissiez constater qu'il y a effectivement une baisse budgétaire entre ces deux années.
Très bien. Moi, j'ai une question aussi. Enfin, ce n'est pas vraiment une question, mais on dit souvent que l'enseignement privé est financé du coup par les propriétaires de ces écoles-là. Et on restreint un peu le rôle que va avoir le service public sur le financement de l'enseignement privé. Pourtant, d'après le syndicat Sud Éducation, en 2022, l'État va financer l'enseignement privé à hauteur de 13,8 milliards d'euros, ce qui revient à 75% du budget. Donc moi, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, le public ne financerait pas l'enseignement privé et ne privilégierait pas aussi finalement l'enseignement privé. Et à côté de ça, au détriment de l'éducation prioritaire qu'il peut avoir dans l'enseignement public.
Aïna, vous parlez d'écoles publiques et privées. Est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité, Dany ?
Je vais toujours parler encore de chiffres. Je dirais que, encore une fois, selon une source anonyme, un visiteur du soir travaillant dans l'enseignement supérieur, en effet, si je prends le cas de l'université Paris 13, le financement de la bibliothèque de Paris 13 est de plus en plus en baisse. On constate qu'il y a de moins en moins d'argent investi dans le cadre de la bibliothèque. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, on voit de véritables inégalités au niveau des budgets des universités. En effet, le budget annuel des universités publiques varie selon les universités en France.
Et puis aussi concernant du coup la différence entre les écoles privées et publiques, on peut voir une réelle différence entre les étudiants qui sortent de ces diplômes-là. Par exemple, des diplômés qui sortent d'une école privée, selon la CGE, on observe aussi qu'ils ont une insertion professionnelle beaucoup plus rapide, contrairement à des gens qui passent par une licence ou encore un master. On observe même qu'en 2021, selon la CGE, sur une étude qui a été faite sur 227 établissements privés, il y a 90% des diplômés qui ont un taux net d'emploi de 90%. Et, contrairement à celui des établissements publics qui sortent par exemple d'un master ou même d'un bac plus 3, le taux était beaucoup plus faible. Donc il y a une réelle différence, même tu parlais d'égalité des chances, Youssef. Un étudiant qui sort d'un public et un étudiant qui sort d'un privé, ils n'ont pas forcément les mêmes clés en main pour pouvoir réussir et s'insérer professionnellement.
Alors,
avant ça, je vois Aïna qui est très dubitative et pas très d'accord avec ses confrères ici présents. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Christian et Dani viennent de dire actuellement ?
Bah, moi, je pense que le problème, il vient avant ça. Il vient avant même le fait de rentrer dans l'enseignement supérieur. On sait très bien que, enfin, vous nous parlez d'égalité des chances. Bah, finalement, égalité des chances, moi, je pense que non. On ne part pas tous avec les mêmes chances lorsqu'on vient d'un endroit qui peut être considéré comme prioritaire, comme les quartiers prioritaires des banlieues, ou lorsqu'on vient de Paris dans le 5e arrondissement avec nos magnifiques petits lycées Henri IV ou autres. On ne part pas tous avec les mêmes chances parce qu'on doit prendre en considération énormément de facteurs, et ça, c'est Bourdieu qui nous le dit. On doit prendre en considération le fait qu'on ne part pas tous avec le même capital culturel, on ne part pas tous avec le même capital social. Et quand on prend en considération ça, on sait que les lycéens, aujourd'hui, ne vont pas avoir la même possibilité d'accès à des enseignements qui vont être considérés comme des enseignements d'excellence pour intégrer des écoles comme Sciences Po ou comme la SAS. Et à partir de ce moment-là, on doit se poser la question de s'il y a réellement une égalité entre les lycéens qui sont présents, pourquoi on retrouve très peu de personnes qui viennent de milieux prioritaires dans ces écoles-là ?
Du coup, avec les propos que vous tenez, vous remettez en cause le concept de méritocratie et le concept que l'on peut réussir peu importe d'où l'on vient.
Ah, mais complètement. Enfin, le concept de méritocratie, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu illusoire. On va nous sortir différents exemples comme Annie Ernaux ou Albert Camus, mais c'est des exceptions par rapport à des millions de personnes qui, encore aujourd'hui, ont du mal à sortir de leurs conditions.
Bah, moi aussi, par exemple, en tant qu'étudiant qui suis arrivé aux études supérieures, quand je me suis retrouvé, moi je vais faire du journalisme, et quand je me suis retrouvé à devoir choisir ma voie, je me suis très vite rendu compte que je ne pouvais pas aller en école privée, tout simplement parce que je n'en ai pas les moyens. Donc on se retrouve face à une voie qui nous est indiquée pour arriver à cette profession-là, mais qui au final est entre guillemets bouchée, puisqu'on n'a pas tous cette chance d'accéder à cette éducation-là.
Mais en effet, vous...
Et malheureusement, je suis désolé, Dany, de vous interrompre, mais c'est sur cette note que nous allons devoir finir. Le débat prend fin ici, malheureusement. Je relance l'antenne à Matos. Merci beaucoup à nos invités.
Merci beaucoup. Vous avez compris, vous avez écouté le débat avec Youssef et ses invités. Merci beaucoup, Youssef. Et maintenant, c'est la musique pour détendre un peu l'atmosphère.
Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a free throw, man down, call a Amber Lambs, tell him breathe bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 wop. Dot, fuck him up. Wop, 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 wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us. They not like us. They not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? Be rest, that's for bitching. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fetch Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content, might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding, fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on, he fuck around, get polished. Fucked on Wayne girl while he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home, y'all didn't deserve him either. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena, that predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the park. Ayy, put the roll label on me, I'ma get them
drop, ayy. Sweet chin music and I won't pass the ox, ayy. How many stocks do I really have in stock, ayy? 1, 2, 3, 4, 5 plus 5, ayy. Devil is a lie, he a 69 god, ayy. Freaky ass niggas need to stay their ass inside, ayy. Roll their ass up like a fresh pack of Zon, ayy. City is back up, it's a must, we outside, ayy. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug made you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for
let
your life.
Let me hear you say O-V-Ho.
O-V-Ho.
Say O-V-Ho.
O-V-Ho.
Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way.
Ah oui, c'était Not Like Us de Kendrick Lamar. Maintenant, place à l'interview. Bonjour Yasmine.
Bonjour,
je vous laisse vous présenter, nous présenter à votre invité.
Alors bonjour à tous et à toutes, on est ici avec Eva.
Bonjour.
Étudiante en licence 3 information communication à Sorbonne Paris Nord. Elle va nous faire un petit retour sur son expérience scolaire. Bonjour Eva, alors bonjour, peux-tu Yasmine. Nous parler un peu de ton parcours scolaire?
Alors, moi actuellement, je suis étudiante en licence 3 en information communication à l'Université Sorbonne Paris Nord. Et du coup, ça fait 2 ans à peu près que j'y suis. Et avant ça, j'ai fait un semestre, donc voilà, une moitié d'année dans une école privée.
Pourquoi tu n'as pas fini ce cursus dans le privé ?
Alors, j'ai pas fini ce cursus dans le privé parce que j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire, dans cette école. Je trouvais qu'au niveau de l'organisation, ça allait vraiment pas. Dites-vous, en 3-4 mois, on a changé 3 fois de directeur à l'école, ce que je trouvais assez... je trouvais ça pas normal. Et ensuite, par rapport aux cours aussi, je trouvais que le contenu, il était pas très... Pas très ludique, pas très intéressant. Et j'avais l'impression plus d'acheter mon diplôme, en fait, tout simplement, que de l'acquérir, en fait, par rapport aux compétences que j'allais développer par la suite.
On parlait d'acheter son diplôme. On va donc parler maintenant de moyens. On dit souvent que l'université publique manque cruellement de moyens. Est-ce qu'à ton sens, ce manque de moyens fait défaut aux qualités de l'enseignement dans le public d'après tes observations, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Alors, par rapport à l'enseignement, je dirais que dans l'école privée, il y a des professionnels. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. C'est vrai qu'ils connaissent leur travail. Et au niveau de la qualité de l'enseignement, c'est vrai qu'on apprenait quand même quelque chose. Mais par rapport à ce qui se passe par rapport à l'école publique, c'est vrai que voilà, les enseignants, ils sont beaucoup plus pédagogues, en fait. Ils vont plus nous accompagner dans l'apprentissage. Que par rapport en fait à l'école privée, donc c'est surtout ça qui est différent, et aussi en fait par rapport tout simplement aux cours qui sont beaucoup plus intéressants, et ça nous permet vraiment en fait de voir différents thèmes et vraiment de nous orienter en fait par rapport à ce qu'on aime, alors que dans l'école privée c'était vraiment très très centré sur quelque chose de précis et pas très intéressant.
Ce manque de moyens, est-ce que tu l'as peut-être ressenti dans les structures?
Les infrastructures, alors oui, et bizarrement, il est vrai qu'on pense que dans les écoles privées, voilà, c'est des grosses infrastructures, il y a beaucoup de moyens en fait qui sont donnés pour les étudiants, et bah, pour ma part, c'était pas vraiment le cas. J'avais plus l'impression de me retrouver dans un bureau qu'autre chose. Réellement, on avait, voilà, on devait avoir 5 classes à peu près, en fait, c'était dans des bâtiments haussmanniens, et on avait juste une petite cafette où il n'y avait même pas assez de tables en fait pour que tout le monde s'assoie, il n'y avait même pas assez de chaises pour qu'on s'assoie, il n'y avait pas de distributeur, voilà, il n'y avait pas de cantine, en fait, on... Tout ça, en fait, c'était vraiment mis à part, alors que, par exemple, à l'université publique, bah, on remarque vraiment que voilà, il y a la cantine, il y a le Crous, il y a beaucoup de cafétérias, en fait, il y a beaucoup d'infrastructures pour les étudiants, pour accompagner les étudiants, chose qu'il n'y avait vraiment pas dans l'école privée dans laquelle j'étais.
L'école, c'est aussi un lieu de vie. Et toi, Eva, comment tu te sentais dans le privé? Tu te sens mieux dans le public?
Alors, par rapport à ça, c'est vrai que je me sens mieux dans le public parce qu'il y a vraiment cette notion de diversité. Qu'on retrouve à l'université, en fait, même que ce soit par rapport aux personnes. Voilà, c'est une fac, donc il y a je ne sais pas combien d'élèves. Et au privé, c'est vrai qu'on était une classe, voilà, il devait avoir 3-4 classes en tout. C'était vraiment pas énorme. Et c'était une classe de 20 personnes, et à peu près de 20 personnes, on va dire. Et c'était surtout des personnes, voilà, qui n'étaient pas du même milieu social que moi aussi, on peut le dire. Et c'est vrai que je ne me sentais pas forcément à ma place, en fait, surtout au niveau de l'ouverture d'esprit. On ne vivait pas les mêmes choses, en fait. Il y avait vraiment un décalage entre nous deux. Et il y avait vraiment, en fait, je me sentais vraiment mise à l'écart par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir, en fait, et de m'ouvrir, en fait, tout simplement, aller à la fac publique et voilà, découvrir en fait de nouveaux horizons, tout simplement.
Merci beaucoup, Eva, pour ton retour d'expérience.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Yasmine, avec son invité. On passe maintenant à Love and Driss, qui nous fait un retour sur sa dernière lecture du moment. Bonjour.
Bonjour, exactement, c'est ça. Et un jour, je suis devenue arabe. Je ne parle pas de moi, mais du premier essai du journaliste et podcasteur nommé Anas Daif, un ancien étudiant de notre licence et de notre radio universitaire 13e Monde à 29 ans. Cet essai porte sur l'intersectionnalité, donc sur les dimensions de notre identité sociale qui se croisent, qui peuvent être exposées à des expériences de domination, à la fois français, marocain d'origine, issu de classe populaire, musulman et queer. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai la certitude que Anas Daif est bien légitime de se prononcer sur le sujet de l'intersectionnalité. Il explique justement que cette prise de conscience de son identité multiple a été tout un parcours. Donc il analyse dans son livre les discriminations des personnes issues des diasporas nord-africaines, afro-descendantes et asiatiques. Mais alors, qu'y a-t-il de vraiment nouveau dans ce livre et d'intéressant? Moi, je dirais tout d'abord la forme, puisque son discours est certes pédagogique, mais il reste relativement simple à comprendre finalement. En fait, il emploie des concepts sociologiques qui sont parfois difficiles à saisir et à accepter, comme le white passing ou la suprématie blanche. Mais il emploie aussi de l'argot, des références à la culture populaire, avec par exemple le mouvement des cyber de Châtelet. Anas Daif vulgarise le sujet. On sent qu'il n'a pas forcément l'intention de prouver à qui que ce soit qui parle un français soutenu ou trop compliqué pour certains, d'où son écriture simple qui parle finalement au plus grand nombre. Dans le fond, l'idée, c'est de déconstruire ce qu'on peut appeler le regard blanc. Ce ne sont pas seulement les personnes racisées d'un côté versus le reste du monde de l'autre. Non, puisque les personnes discriminées se discriminent même entre elles. Par exemple, au sein de la communauté arabo-musulmane, Anas Daif est lui-même sujet à des expériences homophobes. L'urgence ici, pour le coup, ce n'est pas d'accuser les racistes d'être des mauvaises personnes, mais plutôt d'anéantir ce racisme systémique en commençant par prendre conscience de sa condition dans la société, donc pour les personnes blanches, de leurs privilèges, et pour les personnes racisées issues des diasporas, de ce qu'implique l'intersectionnalité des luttes.
Auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt sur Radio Campus Paris. Prenez soin de vous.